Nous allons aujourd'hui explorer notre lien à la mobilité et ses conséquences sur l'architecture. Ainsi, le nomadisme nous avait fait choisir une roulotte pour enregistrer nos auditeurs aux 24 heures du Livre du Mont en 1993. Nous étions bien loin de la grande forme majestueuse de la Maison de la Radio. Ce besoin de lieux plus petits et mobiles augmente au fil des ans et Marc-Antoine Granier a voulu réaliser une petite histoire de la mobilité de la cabane à la yourte en passant par d'autres solutions tout juste inventées.
Et les architectes sont aujourd'hui confrontés, tout comme les juristes d'ailleurs, à ces nouveaux usages du monde.
Oui Hervé, nous allons entendre Arnaud Lemarchand, Véronique Villemin, pour Échelle Inconnue, Christophe Hubert et Stanis Cambotte, ainsi que des usagers nomades. C'est une phrase de Guy Rottier qui a servi de boussole. L'architecture s'invente et doit être libre, car c'est un art en évolution constante. Elle n'a pas besoin de chercheurs, mais de trouveurs.
Je viens de la région parisienne, j'ai une petite famille, et comme tout le monde, je voulais la loger. Dans mon fonctionnement, c'était hors de question que je m'endette toute une vie pour avoir un petit pavillon à une heure de mon boulot, tout simplement. Du coup, j'ai cherché différentes alternatives. À un moment, je me suis arrêté sur un bateau. Les prix de l'immobilier étaient au plus haut, mais aussi les prix des matières premières, donc des métaux. Donc la moindre péniche dans un super mauvais état était un prix qui ne permettait pas de la rénover décemment, en fait. Sauf, encore une fois, à s'endetter toute une vie. Je me suis lancé dans les calculs pour avoir une idée de la quantité de bois qu'il me faudra. Et petit à petit, voilà, c'est parti. C'est ce qu'on m'a reproché à des moments. Ouais, tu bricoles un bateau, ouais, t'inquiète, tu dois flotter.
La ville est pensée, réglementée par des ingénieurs, des urbanistes, des investisseurs, où les maîtres mots sont infrastructure et grande métropole. Aux habitants d'en disposer et de vivre avec. Mais reste-t-il de la place à l'initiative de chacun ? Peut-on choisir, par exemple, une autre forme d'habitat ? Sortir de cette ville du cadastre ? José, lui, a choisi pour sa famille une maison flottante, un habitat dit nomade, un logement mobile. Il est parfois difficile de poser des mots tant ils peuvent enfermer ou mettre les gens dans des cases, les exclure. Ils sont pourtant nombreux à fuir cette urbanité planifiée. Ils la subissent parfois, mais par la force des choses, inventent chaque jour des modes de vie, sensibles, fragiles, et rencontrent quelques utopies contemporaines. En parlant d'utopie, Guy Rottier, architecte œuvrant à partir des années 60, lutta toute sa vie contre le conformisme des lois de l'architecture. Il présenta, en 1964, au Salon des Arts Ménagers de Paris, un concept manifeste pour la liberté d'expression et contre les lois contraignantes du bâti, la maison de vacances volantes. Architecture et mobilité, de Marc-Antoine Granier et Julie Béressy.
C'était la provocation. Et d'ailleurs, aux Arts Ménagers, il y avait une pancarte, une grande pancarte là-dessus. Plus de permis de construire, l'habitant choisit son terrain, dont il n'est pas propriétaire, et il choisit son site et son orientation. Vous voyez, c'était donc simple. C'est-à-dire, il pouvait se déplacer, c'était la première manifestation d'architecture mobile qu'il y a eu, et c'était tout à la fois, c'était un manifeste, uniquement un manifeste. Ce n'était pas du tout pour essayer d'en tirer des sous ou de déposer un brevet. On m'a dit, pourquoi tu poses pas un brevet, etc., etc. Je dis, mais enfin, vous êtes fous, non? Moi, c'est des idées qui m'intéressent et moi, ce que je veux, c'est qu'un architecte puisse construire. Or, ce n'était pas le cas. C'est pour ça que j'ai fait ça.
C'est tellement Guy, quoi. Quand on lui disait, monsieur, vous pouvez vous présenter, il disait jamais, je suis architecte. Je suis un architecte de temps en temps, ou je suis quelqu'un qui dessine, ou quelqu'un qui réfléchit à la vie.
Véronique Villemin, architecte et docteur en sciences et prospectives.
Donc Guy avait réfléchi un moment, puisqu'il habitait à côté de Nice sur la Côte d'Azur, en se disant la côte ça devient impossible, ça devient de plus en plus laid, les gens achètent des maisons et sans dette pour avoir des maisons de vacances dans lesquelles ils vont passer un mois, voire deux mois maximum, ça leur coûte très cher. Ils sont obsédés par leur maison toute l'année, sur la fuite qu'il va y avoir, sur l'entretien du jardin, surtout, c'est épouvantable, ça leur mine la vie. Faisons des maisons éphémères, légères, et qu'on puisse changer à chaque vacances, et la forme, et qu'on puisse tout changer. Donc on les fait comment ? De matériaux destructibles, le carton. Donc il a inventé la maison de vacances en carton, disant voilà, vous arrivez, vous avez vos rouleaux de carton, vous montez votre maison, vous n'avez pas besoin de permis de construire, puisque vous la posez au sol, il n'y a pas de fondation. Et quand les vacances sont finies, ben on fait un feu de joie tous ensemble, on brûle la maison, puis le terrain est vierge, si bien que ça permet aux gens de partir en vacances, de créer leur propre unité de vacances, comme ils veulent, avec des copains, avec la famille, donc aussi grande qu'ils le veulent sur leur terrain. C'est l'idée plus belle que le camping ou le mobil-home, quoi, puisqu'on le fait à la taille où on veut, comme on veut, avec les frises qu'on veut, ce qu'on veut, bon. Et puis c'est brûlé à la fin. Alors ça, c'est resté dans les archives, c'est les années 70-80. Et tout ça, c'est pas une personne, c'est tout un mouvement à la fin des années 70-80 qui avait une réflexion sur « on ne veut plus qu'on décide pour nous, on veut décider nous-mêmes de comment on va habiter, comment on va faire notre maison ». Et Guy Rothier était dans ce mouvement-là, ainsi que pas mal de ses amis et collègues architectes ou économistes ou poètes ou philosophes, puisque c'était tout un groupe, donc c'est pas une personne. Guy était un fer de lance de ce mouvement. Entre autres, il y a eu un moment, il a créé de manière anarchique, puisque c'était aussi le côté, il y a un côté politique, il y a un côté engagé. Tous ces gens, tous ces hommes, parce qu'il y a peu de femmes, tous ces hommes étaient extrêmement engagés dans la cité et dans la ville, puisque pour eux, l'architecture est avant tout un geste politique.
Je suis sans doute de ces aventuriers, chercheurs d'or ou de rêves, partis à la rencontre de l'impossible ou du futur. Je me situe partout où architecture s'écrit avec un grand T, en dehors des lois et des contraintes artificielles qui bloquent les esprits. À travers mes créations, j'aimerais deviner ou mieux entrevoir le futur, comme Jules Verne l'avait fait en son temps. Du passé, je ne veux retenir que l'évolution dans tous les domaines, sans avoir peur de déraciner les gens ou de les arracher à leur conformisme contagieux. Afin de bien montrer qu'il y a des chemins de traverse merveilleux et insoupçonnés à découvrir. L'architecture s'invente et s'exporte comme un avion, un bateau ou une fusée. Elle n'a pas besoin de chercheurs, mais de trouveurs. Guy Rothier.
On parle d'habitat nomade. On ne parle pas de maison nomade, jamais. Ou alors c'est une grosse erreur. Pourquoi ? Parce qu'au départ, les gens... l'humanité n'était pas sédentaire, elle bougeait, donc elle était nomade. Qu'est-ce qu'elle faisait ? Tous les soirs, pour dormir, construisait un habitat de fortune, avec des feuilles, avec ce qu'on avait, il y avait une grotte, donc on cherchait un lieu d'hébergement, un lieu d'habitat, pour pouvoir survivre, quoi. C'est la manière des humains de s'héberger toutes les nuits, ou pour créer une famille, d'avoir un hébergement un temps, comme tous les animaux font un nid, l'humain a besoin d'une protection. Donc, tout le début de l'humanité, c'est le nomadisme avec des habitats. Puis à un moment, ça a changé, on est allé vers l'agriculture, la sédentarisation, et qu'est-ce qu'on a construit ? Des maisons. Au moment de la Seconde Guerre mondiale, ces maisons, elles ont pu après être démontables et mobiles. Les Américains ont logé les gens. Il fallait créer des villes entières le temps nécessaire. Ça voulait dire, on emmène des mobil-homes, on fait de la construction de Lego sur place. Et une fois que c'était fini, on démonte et on va ailleurs. Yona Friedman a fait un bouquin qui s'appelle « L'architecture mobile », c'est encore autre chose, qui est sa réflexion à lui sur la mobilité à travers une même ville. Bon. Et aujourd'hui, il y a eu un melting pot, et c'est bien, et ça fait rêver, d'être nomade, d'être mobile, de vivre en camion, d'avoir sa maison évolutive, d'avoir sa maison sur l'eau. Est-ce qu'une maison sur l'eau, c'est une maison nomade ? Je dirais que nomade, c'est un mode de vie, un mode de fonctionnement. Alors, on a un habitat nomade. Un bateau, c'est un habitat nomade. C'est un habitat nomade et c'est une maison mobile. Quelqu'un qui vit dans son camion, on peut extrapoler, on peut dire que c'est sa maison mobile et qu'il en a fait une architecture nomade. Et petit à petit, même nous, en tant qu'archi, hein, c'est devenu une espèce de salade niçoise où on met tout. Et aujourd'hui, vous dites, waouh, c'est bien de vivre mobile. Bon, c'est peut-être bien de vivre nomade, mais vivre mobile, ça veut rien dire.
Le principe de la mobilité m'a toujours interpellé. Déjà en 1945, à la fin de la guerre, alors que j'étais en Roumanie, j'ai dessiné un système de panneaux en chaîne un peu comme un paravent. Le système, à base de panneaux simples préfabriqués, était conçu pour être posé sans fondation au sol et recouvert d'un toit en préfabriqué. Chaque usager pouvait changer la forme géométrique des panneaux comme il le voulait. J'ai voulu réagir au fait que l'usager n'a pas de décision dans sa possibilité d'habiter. J'ai essayé de donner la liberté aux habitants. Liberté dans le sens d'une décision non préméditée. Les parois peuvent changer, se déplacer. Yona Friedman.
Pour l'architecte dit utopiste, Yona Friedman, Les habitants doivent être considérés comme des professionnels hautement qualifiés et des experts en matière d'habitat. Chacun d'eux ayant une expérience suffisamment longue du mode de vie qui lui convient pour savoir ce qu'il veut. Alors, utopiste ou réaliste ? Les volumes simples, l'autoconstruction, la mobilité n'ont jamais transporté l'enthousiasme des grands réalisateurs urbains, d'hier et d'aujourd'hui, plutôt intéressés par la monumentalité des grandes infrastructures. Il n'en reste pas moins une nostalgie du nomadisme, celle qu'on assimile continuellement et parfois à tort au déplacement. Pourtant, la ville nomade n'est pas nouvelle. Au XIXe siècle, elle joue un rôle puissant auprès de la ville sédentaire, maintes fois rejetée, rappelée ou tolérée, au gré du bon vouloir des pouvoirs publics, elle réapparaît au fil des âges sous différentes formes. Nomade, du terme nomas, qui désigne le berger, le pasteur qui cherche les pâturages.
En fait, les nomades, au moins tout au long du 19e et du 20e siècle, n'ont pas été en dehors de la société.
Arnaud Lemarchand, maître de conférences en économie.
Ou uniquement lié à des fonctions archaïques, je sais pas, comme à la limite nomade, c'est berger en fait, à l'origine, mais au contraire, assumer une fonction, qui étaient des fonctions de mise en relation d'espaces différents, qui avaient des rationalités économiques, commerçantes notamment, mais aussi industriel, parce qu'il y a des ouvriers qui se déplacent d'un endroit à l'autre, il y a des idées qui ont circulé, des objets qui ont circulé, des innovations qui ont circulé. Voilà, donc c'était des espaces qui assumaient une fonction, y compris pour les sédentaires qui étaient autour. L'exemple le plus facile, bien sûr, c'est la foire, la fête foraine, qui est en général sur un espace bien délimité. L'endroit où les caravanes sont stationnées est souvent un autre espace, d'ailleurs, tout aussi délimité. Mais évidemment, ça permettait à beaucoup de gens de se relier à toute une autre série de distractions, de divertissements, et plus généralement de nouveautés, en fait, qui les mettaient en relation. La foire du 19e siècle, elle assumait encore beaucoup de fonctions. Elle n'est pas comme les fêtes foraines actuelles, qui sont séparées des foires commerciales. Pratiquement jusque même dans les années 20 du XXe siècle, c'est les deux phénomènes en même temps. C'est-à-dire qu'il y a la fête foraine, et puis il y a la dimension commerciale, la foire agricole par exemple. Même une foire comme celle de Rouen, jusqu'aux années 60. Au début des années 60, il y avait encore des ventes de poulains. Il y avait encore une dimension agricole qui s'est terminée justement en 62. Donc ça a duré très longtemps. C'était aussi comme les foires industrielles, notamment les présentations des premières voitures se faisaient, comme les matériels agricoles modernes, sur les foires. Donc la foire, c'est un phénomène du 19e siècle qui est encore un phénomène total. Alors effectivement, on pourrait dire, depuis le vote de la fameuse loi de 1912, qui était devenue loi de 1969, qui a instauré le fichier nomade, le fichier forain, et une série de restrictions de droits, les nomades et les forains ont été en quelque sorte vus comme des étrangers de l'intérieur. Et finalement, à la fin du 19e siècle, il y a un passage, une espèce de retournement. Tous les étrangers sont des nomades, donc tous les nomades sont des étrangers. Mais ça, c'est une perception qui n'est jamais unanime. Déjà, il y a des moments, il y a des périodes dans lesquelles clairement, y compris l'État et l'administration, n'ont pas cette vision-là. Quand ils en ont besoin. Première moitié du 19e siècle, l'État pense qu'il faut construire un marché national. Les marchands ambulants forains sont très importants dans l'écoulement de certains stocks industriels, notamment textiles. Et quand des maires prennent des mesures anti-foraines, les préfets ou les sous-préfets les rappellent à l'ordre. Il y a des textes explicites là-dessus. Donc il y a une liberté du commerce et du commerce itinérant. Et donc, une relative protection ou bienveillance à les gens qui sont en habitat mobile, puisque c'est une nécessité. Dans les périodes où on considère qu'on a besoin que la main-d'œuvre circule, et où l'État pense que c'est nécessaire, eh bien, effectivement, on les ménage. Et puis, dans les périodes où on considère que ça ne sert plus à rien, c'est considéré comme résiduel, eh bien, au contraire, il y a une pression dessus. Moi, je crois que là-dessus, l'État a toujours deux. Il y a un aspect où parfois il envoie une espèce de nécessité. Il y a une dimension sécuritaire, par contre, qui, elle, effectivement, se méfie toujours du nomade ou du mobile, de manière générale, parce qu'il est difficilement contrôlable et il est un peu potentiellement suspect. Mais il y a des moments où cette vision sécuritaire, finalement, est à l'arrière-plan. Il y a des moments où elle arrive au premier plan. Ça dépend un peu de la conjoncture politique. C'est pareil du point de vue de la population. Croire que la population, y compris les commerçants sédentaires, par exemple, serait toujours hostile au mobile, c'est une erreur. On s'aperçoit régulièrement, par exemple, qu'il y a des commerçants sédentaires qui sont tout à fait conscients du fait qu'une partie de leur activité dépend de l'arrivée de gens qui sont en déplacement ou de forains. Donc en fait, il y a des solidarités qui existent aussi et qui se réactivent. Donc je crois qu'il ne faut pas croire que la société est toujours contre les mobiles et surtout que toute la société est contre les mobiles. Ce n'est pas vrai.
Le dispositif légal qui se met en place à partir de 1912, il est ambigu. C'est à la fois on les fiche parce qu'ils sont mobiles.
Stanis Cambott, architecte et fondateur du groupe Échelle Inconnue.
Ça, on commence dès la fin du 19e, hein, 1885 à peu près. On les fiche parce qu'ils sont mobiles et donc par conséquent, on supposait dangereux. Et en même temps, une fois que ce fichage est établi, en effet, pour le maintenir, il faut aussi les maintenir dans un état de mobilité, mais surtout dans un état de précarité, qui fait que c'est très compliqué d'accéder au droit, voilà, enfin, à obtenir le droit de vote quand on est détenteur du vilain carnet genre du voyage, c'est quand même très compliqué. Donc voilà, il y a cette espèce de maintien. Mais qu'encore une fois, le droit lui-même devient incohérent, évidemment, à cet endroit-là, et essentialise et orientalise par le fichage. Donc que faire de l'ouvrier mobile qui réapparaît, ou du traveler qui réapparaît, ou de la personne désireuse de vivre en yourte, ou d'une manière alternative, cabane dans les bois, ou je ne sais quoi. Donc là, on voit comment la République ou le droit essaie de ressaisir ces questions-là. Donc on se rend bien compte que la catégorie gens du voyage, on s'est fait épingler plusieurs fois par l'Europe, donc on essaie de la faire sauter. Et puis on va commencer à s'intéresser, comme dans le cadre de la loi Allure, à d'autres formes, préhensibles, en tout cas par le logiciel ou la manière dont l'État pense le droit et le sol. Et donc, bah, le premier qui tombe sous le sens, en tout cas pour l'État, ça va être l'habitant d'yourte. Cela serait intégrable, donc on peut imaginer ce qu'il va essayer de faire Allure, c'est-à-dire légiférer sur ces cas précis. Et donc la loi Allure, bien que très généreuse et intéressante, et voilà une tentative de légiférer sur deux problématiques, qui seraient la problématique gens du voyage et la problématique yourte. Mais quid du traveler, quid de l'ouvrier mobile, là il y a un refus de légiférer, véritablement. On s'en occupera plus tard, ou on retombe sinon dans le discours de l'anormalité, tout ça finira bien par rentrer dans le droit chemin et se sédentariser normalement, et que là c'est un moment particulier de crise, mais évidemment on n'a pas encore essentialisé ces personnes-là. Donc voilà, le droit, alors évidemment moi, je ne suis pas légiste et je pense que le droit n'explique pas tout, et même si c'est un terrain qu'il ne faut pas lâcher en termes de lutte, on voit à quel point le droit est aussi porté par du fantasme, comment la République fantasme aussi le territoire, fantasme les gens qu'il traverse d'une manière qui se soit différente de la manière dont elle le pense.
Alors ici on est sur le quai rive gauche à Rouen, proche de la Seine.
Christophe Hubert, géographe et administrateur du groupe Échelle Inconnue.
On voit au loin là des pelleteuses, des tas de pierres, des tas de sable. Qu'est-ce qui va se passer là sur ces quais?
La mairie et la métropole en fait réaménagent les quais pour y mettre des commerces, etc. Et donc en fait sur ces quais il y avait toute une vie qui n'était pas en fait inscrite sur les plans du cadastre de la ville. Toute une vie d'habitants nomades. Donc il y avait à la fois des travelers, toughers, travelers, qui habitent en camion. En fait, les toughers, ce sont ceux qui font la teuf, donc la fête. En général, ils habitent en camion, mais pas forcément. Et ils se déplacent de fête en fête avec leur camion. Les travelers, c'est tout simplement les personnes habitant en camion. Et au départ, ils habitaient sur l'île La Croix. Ils se sont fait expulser par la mairie de Rouen et ils ont trouvé cet espace qui est finalement pluri-institutionnel, et c'est ça qui leur a permis de pouvoir habiter ici. Parce qu'en fait, c'est un espace un peu étrange qui est sur le territoire du port autonome, et ce territoire n'a pas les mêmes pouvoirs de police que le territoire municipal, métropolitain, etc. Ça se deal avec des boîtes de sécurité qui viennent et qui font le tour du port autonome. Et donc là, il y a un autre échange qu'avec les forces de l'ordre habituelles. Et ils ont aussi choisi ce territoire-là pour d'autres raisons. En face, là où les quais ont été réaménagés, les restaurants diffusent le Wi-Fi, ce qui permet aussi d'avoir accès à Internet, accès au réseau. Et ça leur permet de pouvoir aller de chercher du travail, par exemple sur le Pôle emploi, via Internet, soit sur leur portable ou soit sur leur ordinateur qu'ils avaient dans leur camion. Et leurs voisins, à l'époque, c'était des ouvriers habitant en caravane. Et donc eux, ils participaient à la rénovation des clochetons de la cathédrale. Et pour cette rénovation-là, donc, il y avait tout un tas d'éléments en cuivre qui étaient retravaillés dans le hangar 108. Et l'entreprise avait demandé aux ouvriers d'être présents sur le site même, puisqu'il y avait du cuivre à l'intérieur du hangar 108. Et donc ils avaient peur qu'il y ait des vols de cuivre à ce moment-là. Il leur demandait d'être présents et donc d'habiter directement sur place en caravane. Ce qui leur permettait en contrepartie d'avoir des sous supplémentaires qui n'étaient pas utilisés pour les hôtels et donc ils pouvaient le garder pour eux pour rester proche du hangar. Et l'État qui n'autorise pas ce type d'habitat, là, l'autorise. Il y a une autorisation exceptionnelle pour un cas exceptionnel qui était cette rénovation des clochetons. Parce qu'on n'a normalement, théoriquement, pas le droit de vivre plus de 11 mois de l'année au même endroit en habitat mobile. À partir de 2012, on a quand même remarqué que les quais se vidaient. Il y avait toute une signalétique sur les quais informant aux Rouennais que les quais ne pouvaient plus être accessibles. Et du jour au lendemain, ils n'ont plus eu le droit de s'y installer. Les pouvoirs publics les poussent implicitement à d'autres endroits. Après, je pense vraiment que les pouvoirs publics pensaient supprimer un énorme parking et pas forcément supprimer une vie nomade.
Expliquer ce que vous venez de faire là du coup.
Bah là j'essaie de démarrer mon camion parce que j'ai pas vidangé le réservoir et je fais moitié huile, moitié gazole ou rouge. Et parce que c'est vieux moteur, du coup ça marche à l'huile. Sauf que vu que j'ai pas vidangé avec l'hiver, le froid, l'huile elle se fige. Et du coup là ça doit faire un peu des morceaux d'huile dans le moteur. Et donc il a du mal à démarrer.
Superbe intérieur.
C'est un aménagement à Étienne assez sommaire pour le moment.
Alors, c'est un salon et un lit. Bah là je dors pas dedans parce que de toute façon il fait trop froid et tout, donc j'y suis pas trop là. Donc là pour le moment il est pas du tout isolé, la tôle est à nu, donc il y a encore pas mal de travail à faire. Et bah là, on se retrouve un peu au milieu d'un chantier, d'outils, de pas mal de bordel.
Qu'est-ce que ça représente pour vous le camion ?
Pour moi, c'est la liberté totale, quoi. C'est voilà, c'est juste ça. C'est que demain, je peux me prendre la tête avec ma copine. Je peux en avoir marre des projets de l'assaut. Je peux voilà, j'ai une liberté totale et j'ai toujours une maison, quoi, parce que quoi qu'il arrive, on pourra m'expulser d'un parking, mais on m'expulsera pas de mon camion, quoi, ça c'est sûr. Et du coup, j'aurai toujours entre guillemets un toit sur la tête. Et même demain, la situation politique de la France me plaît plus, je peux partir tenter une nouvelle vie dans un autre pays, par exemple, quoi.
Puis pour moi, carrément, c'est une idéologie. Moi, ça fait déjà 2 ans que je vis soit camion, soit squat. C'est vraiment une forme de résistance, d'être avec d'autres gens, de créer d'autres façons de vivre, où on fait les choses de manière alternative et tout. Et c'est vraiment des manières de vivre où ça, c'est possible.
Et vous pensez que c'est conciliable avec une philosophie de vie pour plus tard ?
Moi, je sais pas trop. Pourquoi pas, oui. Après, si je dois vraiment faire ma vie, je pense que j'essaierai de passer au poids lourd pour avoir un truc plus confort, plus grand. Mais moi, ce qui est sûr, c'est que je reste dans l'habitat mobile. Je suis très attiré par ces habitations-là.
Pour ma part, pour l'instant, j'ai envie vraiment de continuer ce mode de vie de cette manière-là, quoi. Par contre, vivre en camion, je ne sais pas encore, mais peut-être se rapprocher toujours un peu de l'habitat quand même nomade, qui peut être la yourte ou dans un conteneur, sur un terrain, enfin quelque chose qui reste quand même assez atypique, tout en continuant à restaurer et aménager des camions, parce que c'est quand même devenu une passion. Et voilà, je suis à mon sixième 508 et je compte bien continuer à restaurer des vieux camions encore quelques années, quoi.
Parfois, au bout du périurbain, il y a toujours un temple évangéliste, quelque part. Hein, et au bout du périurbain, à un moment donné, il y a souvent un camion de Travelers ou un camp de Manouche. Hein. Et en même temps, ils sont dans la métropole. Hein, puisqu'au fond, nos grandes métropoles, elles n'ont pas des espaces continus. Alors c'est sûr qu'il y a des fourgons et des camions qui sont en ville, et qui sont discrètement en ville, qui s'arrangent pour qu'on ne les voit pas. Il y a une part furtive, et puis il y a des parts plus visibles qui sont justement dans ces espaces-là. Des espèces de frontières des métropoles. De toute façon, la grande métropole, elle ne fonctionne pas sans ces gens. Hein. Derrière tous ces grands chantiers, maintenant, il y a de la main-d'œuvre qui se déplace. Il y a toute une série d'emplois qui, de toute façon, supposent des déplacements. La métropole, elle a des besoins logistiques aussi, des besoins routiers. Hein, parce qu'après tout, on oublie que parmi les nomades, sont des routiers. Hein, beaucoup de routiers, en fait, rentrent chez eux que le week-end et dorment dans le camion. Hein. Même s'ils ne se vivent pas comme nomades, certains, si on regarde leur mode de vie objectivement, en fait, ils amènent dans le camion. Bon, bah, ces gens-là sont très importants dans le fonctionnement de la métropole. C'est pareil pour ce qui se passe sur les fleuves. Donc il y a toute une logistique aussi hein, qui appelle... À ce genre d'habitat. Donc il y a des gens, on pourrait dire, presque c'est fonctionnel, même si c'est pas planifié, même si c'est refoulé. Puis il y a aussi probablement des gens qui peuvent se glisser, peuvent essayer de trouver une solution en jouant entre les différences d'espace, de marché, les différents interstices de la métropole, en se déplaçant et en se ménageant des formes d'habitat qui peuvent être plus ou moins mobiles.
Donc là j'ai deux panneaux solaires en-dessus de 100 watts. Ce qui nous fait 275 watts de panneaux solaires avec l'éolienne. C'est du 60 watts. Quand elle tourne, automatiquement, elle fournit de 60 watts. Donc, pour être autonome, nous, 210 watts, 4 batteries de 100 ampères. J'ai du courant, j'ai la lumière, j'ai tout ce qu'il faut.
Alors, on se trouve ici.
La Hunière, c'est ouais, la commune de La Hunière. Entre Douin, La Hunière, Passy. Pour nous, c'est plus intéressant de se mettre là. Comme ça, on a un espace, on ne gêne personne. Puis quand il faut aller prendre du travail, ben, on n'est pas loin de la route. Quoi. Nous, on habite carrément dans notre fourgon. Hein. Nous, notre maison, c'est le fourgon. Il est vieux, hein, faut dire qu'il a 25 ans. Alors, je vous dirais de faire attention à votre tête.
Allez-y. Attention à votre tête, oui.
Donc, sur le côté, j'ai une douche. Une douche, c'est spartiate, c'est sûr. Une douche avec toilette, donc elle est beautie. C'est appréciable une douche avec des toilettes dedans.
Bon, je vois qu'il y a la télé là aussi.
Oui, télé. Télé avec l'antenne, satellite. Donc, on peut voir tout le confort. On peut vivre comme ça et avoir un confort. C'est sûr que c'est plus spartiate qu'un logement. Sous le coffre, là, on l'a sur les banquettes où nous sommes assis, bah là j'ai trois bouteilles de gaz. Donc placard au-dessus, avec la linge. Après il y a un peu de tout, il y a vaisselle au-dessus de l'évier, vaisselle, assiette, comme tout le monde. Quoi.
Et alors qu'est-ce qui vous a donné envie d'habiter dans un camion?
Parce que ça fait quand même 8 ans qu'on vit comme ça. Bah, le travail. C'est-à-dire que j'avais perdu mon emploi, la crise des revenus, j'ai perdu mon emploi. Au début, on habitait à Longjon, à une maison. Donc on a déménagé sur Bernay. parce qu'on a entendu dire que sur Bernay, il y aurait du travail. Donc, on a déménagé sur Bernay, on a loué une maison avec un de ses neveux. Pour payer moins cher, parce que les logements, c'est quand même pas donné. Hein. Donc après, nous sommes revenus par ici, parce que si par là, il n'y a rien, nous sommes revenus par ici. On voit là où il y a du travail. Nous avons fait ça déjà pour... Parce qu'en réalité, voilà, on s'est dit que le travail est toujours assez loin. Assez loin, c'est vrai. Là, à chaque coup, quand on a trouvé quelque chose, c'est toujours assez loin. Donc, ce qui nous permet de pouvoir nous déplacer, nous mettons sur un endroit pas trop près de la ville, carrément sur les zones industrielles, c'est ce que nous avons toujours fait, jamais été embêté. Et ça permet d'aller travailler au plus près, quoi.
Parce que bon, arrivé à 57 ans, c'est comme tout le monde, malheureusement, on ne trouve pas tout le temps. Et là, ça fait 3 mois que je n'ai pas retrouvé quelque chose, même en les appelant. Donc on a espoir que
le travail... Comment tu fais quand tu travailles?
Quand on travaille, on prend le camion, puis on se gare juste dans un petit endroit qu'on gêne personne, parce qu'il y a des gens qui n'acceptent pas. Donc on se met dans un petit coin, et puis je vais travailler comme tout le monde. Ils savent que je suis là, mes chefs sont au courant, mais les ouvrières savent aussi, parce que bon, il y en a beaucoup qui viennent boire un café le midi, on vient discuter, parce que bon, on aime bien discuter. Moi, j'aime bien cette vie-là, quoi. C'est vrai que c'est autre chose, mais c'est agréable. Vous sortez quand vous voulez, vous rentrez quand vous voulez. Ce qui manque, bon, c'est le travail, parce qu'en ce moment, c'est très dur, le travail pour tout le monde, malheureusement. Mais c'est une vie haute. J'ai vécu en maison, en pavillon. C'est une autre vie. Très bien.
Et vous auriez envie de revenir en pavillon?
Non, jamais. Si je pouvais avoir un camion un petit peu plus grand... Revenir en maison, jamais.
Regardez, puis en plus ici, on a le plaisir, c'est que le matin, on se réveille avec des oiseaux. Regardez. Ma chérie, elle a installé des mangeoires pour les oiseaux. En plus, ce qui est bien de vivre là-dedans, c'est peut-être spartiate, mais c'est une liberté, quoi. Honnêtement, c'est... Voilà, aujourd'hui, vous n'êtes pas bien là, vous pliez bagages. Hop, on va ailleurs. Au début, quand on a fait ça, on croyait pas être... On ne l'a pas fait pour être le phénomène, parce que... Nous, en gros, on s'est arrangé pour faire selon qu'on dessine. Et on s'est aperçu qu'énormément de gens faisaient ça. Il y a même une nouvelle catégorie, des retraités. Ils revendent leur maison, puis ils achètent un camping-car. Si ce n'est que, bon, voilà, un camping-car, ils sont obligés de rester sur les bords d'autoroute ou dans les campings, parce que c'est pas encore démocratisé carrément le camping-car. C'est pour ça qu'ici, je pourrais pas mettre un camping-car.
Et du coup, vous, administrativement, comment ça se passe?
C'est une association... Donc on va chercher une fois par semaine notre courrier. Tous les ans, on fait renouveler par rapport à la mairie de Passy. Et on a notre courrier. Toutes les semaines, on va le chercher.
C'est parce qu'au début, notre courrier arrivait chez sa maman. Et le problème, c'est que, bon, nous, on ne paye pas d'impôt. C'est sûr qu'on ne paye pas d'impôt au groupe. C'est pas qu'on ne veut pas payer. Hein. C'est un mode comme ça. Mais ça a changé. Les règles ont changé. L'administratif, parfois, en France, est très compliqué. Donc, en fin de compte, nous sommes déclarés comme sans domicile. Comme sans domicile fixe.
Est-ce que vous pensez que c'est à la portée de tout le monde de faire tout ce que vous avez fait dans votre camion?
Oui, c'est ça. Honnêtement, sincèrement, oui. Et à cela, je vais vous dire une chose, énormément de gens s'arrêtent, justement, venir me demander mes idées. Et je les donne volontiers, parce que... Mais oui, c'est largement faisable. Il n'y a pas de joie. On va dire, c'est pas sorcier comme une émission. C'est pas... Voilà, c'est faisable.
Ça fait du bien.
On referme la porte du camion de Marie-Christine et Jean-Charles. Leur habitat mobile est modeste et ancré dans le territoire, telle une petite graine de résistance face au programme urbain qui les expulse. Apparemment, du simple droit d'habiter, il n'en est pas question. L'architecture et l'urbanisme ne savent que faire et préfèrent déconsidérer ces modes de vie, les ranger dans les tiroirs de la marginalité. Le fossé grandit de plus en plus entre ville nomade et ville sédentaire. Mais aujourd'hui, peut-on parler d'une autre ville?
Alors c'est peut-être celle justement qui n'est faite ou qui n'est pas uniquement faite de rues et de murs. C'est justement pas cette ville de l'architecte ou de l'urbaniste qui ne pense la ville qu'à partir de ses représentations, donc que par le foncier ou l'immobilier. Mais une autre ville existe, oui, un peu dans la clandestinité du quotidien, hein, qui est cette ville légère, fragile parfois, nomade souvent, qui n'est pas fixe, qui bouge, et qui rencontre aussi des utopies très contemporaines et concrètes de villes dématérialisées. Mais cette ville, elle existe de toujours, c'est pas une apparition, parce qu'à chaque fois qu'on commence à parler de mobilité, d'architecture nomade mobile, on l'imagine comme un objet extérieur, étranger. C'est des villes qui vivent les unes à côté des autres depuis, encore une fois, au moins le 19e siècle, c'est-à-dire que la zone et les fortifs de Paris sont un morceau de Paris, ne sont pas cadastrés comme les Paris, et elles entretiennent des relations complexes qu'en général, politiques, architectes, urbanistes, refusent de voir. Ce qui est projeté sur ces manières de vivre l'espace, qui n'est pas dans la ligne noire du cadastre, c'est le statut, en effet, d'étranger, mais j'irais plus loin, que c'est le statut oriental du personnage mobile, avec des variantes et des réorientations, voire des réorientalismes qui s'opèrent aujourd'hui. C'est-à-dire que jusqu'à présent, en effet, la catégorie gens du voyage, dans l'imaginaire collectif, était couverte par les figures sudistes et orientales d'Esmeralda, de Carmen, etc. Et les grands mouvements géopolitiques européens, c'est-à-dire en gros la chute du mur de Berlin et le fait que des territoires, d'abord les Balkans, puis des territoires comme la Roumanie, etc., vont s'ouvrir et qu'on va voir l'arrivée de personnes issues de ces territoires-là, va réorientaliser la figure du mobile vers un autre Orient, qui est l'Orient de l'Est. Et là, on est d'abord dans l'espèce de représentation balkanique, puis de plus en plus loin, d'ailleurs, dont on s'inspire parfois positivement, c'est-à-dire le centre asiatique, sa yourte, cette manière qui serait proche de la nature de vivre. Mais bon, on a une sorte de perpétuel besoin d'essentialiser le mobile, et du coup en refuser la complexité, c'est-à-dire le refuser comme un des nôtres, et comme quelqu'un participant et de la vie de la ville et de son économie, etc. Et donc de plus en plus, en tout cas depuis 2002, et l'application de manière soft, contrairement à ce que l'Europe de l'Est a pu connaître du consensus de Washington, c'est-à-dire la manière dont on va déréguler l'ensemble de l'économie, repenser le maillage territorial du service public par exemple, on va voir la réapparition chez nous, à partir de 2002, du prolétariat nomade qui avait pour ainsi dire disparu. Sur le territoire français, on a aussi personnes qu'on appelle des travelers qui prennent la route aussi pour des questions économiques parfois, le travail saisonnier, etc. Et puis en effet, on a ces supposés traditionnels mobiles que sont les gens du voyage et essentiellement les manouches et les sinti présents sur le territoire français qui vivent de cette manière-là. La question en effet, c'est comment les différents pouvoirs essaient de les séparer les uns des autres en identités différentes, et tout l'enjeu serait de voir comment tout ça pourrait recomposer, ou en tout cas se repenser, comme les habitants de la zone et des fortifs ont probablement pu se penser à un moment donné, c'est-à-dire comme une classe dangereuse rejetée par la ville, mais aussi appelée par la ville, qui peuvent entretenir des relations les uns avec les autres.
Entre nos villes, chers étrangers, il y en a de mobiles et de sédentaires. Les mobiles, comme par exemple celles où nous sommes maintenant, sont faites comme je vais vous dire. L'architecte construit chaque palais, ainsi que vous voyez, d'un bois fort léger. Il pratique dessous quatre roues. Dans l'épaisseur de l'un des murs, il place 10 gros soufflets dont les tuyaux passent d'une ligne horizontale à travers le dernier étage, de l'un à l'autre pignon. En sorte que quand on veut traîner les villes autre part, car on échange d'air à toutes les saisons, chacun déplie sur l'un des côtés de son logis quantité de larges voiles au devant des soufflets. Puis, ayant bandé un ressort pour les faire jouer, leur maison, en moins de 8 jours, avec les bouffées continuelles que vomissent ces monstres avant, sont emportées, si on veut, à plus de 100 lieues. Savinien Cyrano de Bergerac. Histoire comique des États et empires de la Lune. 1560.
Là, on est dans ton hangar, Sandrine ?
Oui, dans le chantier naval. Donc voilà, l'activité est ici. On a une cale de mise à l'eau juste à côté. Donc on sort les bateaux ici, on les remet à l'eau. Voilà, tout est dispo ici.
Et du coup là-haut, il y a quoi alors sur cette y a une mezzanine, je vois.
Alors voilà, sur au deuxième niveau, donc deuxième étage, il y a une mezzanine de 120 mètres carrés qui servait à rien. Voilà, c'est mon petit chez moi. Je me suis installé là-haut, posé la yourte là-haut.
C'est ton lieu de travail, en fait, au départ?
Oui, c'est ça, c'est mon lieu de travail. Ouais. Et je dirais que ça arrange un peu tout le monde. Hein. Je veux dire, le hangar est surveillé. S'il se passait quoi que ce soit, d'ailleurs, on a eu un incendie un jour. Si j'avais pas été sur place, tout cramait, quoi. Donc, voilà, je fais office également de gardienne, on va dire.
On va aller voir.
On va monter.
Allez.
Une petite vue sympa sur le chantier. Voilà. Voilà, donc la yourte là sur cette mezzanine avec mon petit joyeux bordel autour, hein, puisque voilà, on entasse un peu aussi.
Allez, on rentre.
Allez. Voilà, donc avec un petit coin cuisine, voilà, évier, plan de travail, beaucoup de récup, petites étagères en ardoise et briques. Gazinière, mon petit coin lit avec un matelas par terre. Moi, je n'aime que les matelas par terre. Voilà, canapé, récup, avec le petit poêle à bois. Et puis, j'arrive tout de suite à avoir des températures super agréables, tropicales, en fait, dès que je fais à manger sur le poêle, parce que ça chauffe super vite.
Du coup, ça fait combien de mètres carrés, une yourte, là, comme ça ?
Bah là, ça fait 25 mètres carrés, là. Je trouve que ça suffit amplement, quoi. C'est... une pièce à vivre. Tout ce qui est armature, c'est en bois, donc des murs en façon treillis, un petit peu, qui se déplient, en fait. Là, c'est ce qu'on appelle une 5 murs.
En tout cas, il y a tout, là. Il y a un petit coin salon avec la télé, la chaîne, même pour faire de la zik, là, il y a un ampli, une basse.
Et ouais, ampli, basse, percu. Et je peux faire du bruit, j'ai pas de voisin, je peux vraiment faire du bruit, ouais. Il n'y a aucun problème. Si j'ai envie de jouer à 3h du matin, je joue à 3h du matin.
C'est quand même pas commun, une yourte urbaine.
Ouais, yourte urbaine, bah oui, c'est pas commun. C'était marrant au début, quand je disais, ouais, j'habite dans une yourte, mais on me disait, mais il n'y a pas de yourte au Polet, quoi. Et si, il y en a une, elle est bien planquée, mais il y en a une, ouais. Oui, donc effectivement, c'est sûrement la seule yourte de Dieppe. Moi, je trouve ça super intéressant, quoi. C'est mon petit nid perché, planqué. C'est génial.
Avant, tu habitais où, en fait ?
J'habitais dans une caravane, une grande caravane. Et voilà, j'étais déjà passé d'un appartement à une caravane. Mais il y a longtemps que ça me trottait dans la tête, moi, d'avoir un habitat non conventionnel, quoi. J'ai toujours été attiré par un ancien wagon à retaper, un bus. J'ai même pensé château d'eau, j'ai pensé roulotte, j'ai pensé tipi, j'ai pensé tout cabané. Et voilà, la yourte a été la meilleure façon de trouver une solution rapide et économiquement intéressante. Et donc il y avait ce bâtiment là, tout près de l'eau, une cale de mise à l'eau. Voilà, l'endroit était plutôt sympa pour s'installer. Moi j'avais besoin d'un logement un peu en urgence et puis un seul salaire pour se loger. C'est difficile de prendre un appartement, les mois de caution, les loyers, deux enfants à charge, un seul salaire. C'était impossible pour moi de me loger, on va dire, de façon classique. Et de toute façon, j'en avais pas envie. Maintenant, si tu t'endettes pas pour 20 ans, t'as plus le droit de te loger. T'as des gens qui bossent et qui sont à la rue, quoi, qui arrivent pas à avoir un toit. C'est délirant, quoi. Moi, si j'avais dû me loger de façon classique, je serais dans une merde phénoménale, quoi. Tu vois, avec un petit salaire à la con, là. Ouais, je serais tous les mois en train de me demander comment je vais bouffer. Non, c'est pas normal. C'est pas normal.
Et du coup, tu dis que t'as des enfants, et ils vivent dans cette yourte ou tu leur as fait des pioles ou...
Alors, mes enfants sont grands maintenant, donc quand ils sont ici, ils sont seulement de passage. Donc, en fait, mon fils a construit à côté de la yourte une espèce de box en bois, de façon à faire une chambre à côté. Mais on va dire que les 3-4 premiers mois, on était tous les trois dans la yourte. C'est eux qui ont éprouvé le besoin d'avoir leur coin à eux. Et... voilà, donc ils se sont fait ça. Et puis on a fait un petit, une petite salle de bain, pareil, à côté de la yourte aussi, une petite construction à côté pour pouvoir avoir une douche, lavabo, voilà quoi.
Est-ce que ça vient de quelque part, cette envie de changement tout le temps ou de bouger souvent ?
Bon, l'envie de bouger souvent, je pense que ça date du mode de vie dans mon enfance. Mon père était marin militaire et on bougeait quand même assez régulièrement. On a vécu... quand on était môme, hein, en Martinique, et puis plus vieux après à Tahiti, et puis entre-temps on bougeait Lorient, Brest, un autre bled entre Rennes et Nantes. Enfin voilà, on a bougé quand même assez régulièrement. Et moi, après, c'est vrai que j'ai continué à fonctionner de cette façon-là, à bouger assez régulièrement, soit en changeant de boulot, soit en changeant de logement, mais j'ai changé assez régulièrement de vie. Ouais, je veux dire, on a tous des ancêtres nomades, hein. Il y en a qui disent nos ancêtres les gaulois, moi je dis nos ancêtres les nomades. Hé, viens là ma fille.
Le stade ultime du capitalisme, pour ainsi dire, c'est considérer que l'habitat léger, mobile, précaire, voire l'habitat de fortune, devient le dernier secteur qu'on n'aurait pas investi. Avec une série de gesticulations architectoniques autour de la ville cool. La ville cool, elle est faite plutôt en bois, si possible de coffrage, elle est montée un peu facilement, ça ressemble un peu à du bricolage, ça peut être vite démonté. Grosso modo, ça ressemble à quelque chose de pas cher, de relativement insignifiant, et avec lequel on peut aménager, animer, pour ainsi dire, de l'espace réputé public. Alors que non loin, dans le bidonville, des formes bricolées elles-mêmes sont criminalisées, sont rasées, sont expulsées, etc. Et là, on voit architectes main dans la main avec les responsables industriels de la filière bois, mais main dans la main aussi avec ce qu'on appelait les meublards, Ikea ou autres, commencer à penser des formes préfabriquées, inspiré plastiquement de l'esthétique cool qui a été développée un peu comme une poésie pour Bobo dans les centres-villes, et arriver à produire ces formes préfabriquées que n'importe quel bédouin métropolitain puisse monter lui-même. Donc c'est d'un seul coup transformer à la fois l'habitant comme un produit, ça a toujours été le cas, mais aussi comme une main-d'œuvre qui viendrait justifier la production d'encore davantage de produits.
Ici, vous réinventez chaque jour. Là où vous êtes n'a pas d'importance. Ce qui compte, c'est ce que vous en faites. Chaque rencontre vous renforce. Pour vous, c'est un jeu. Un jeu que vous aimez gagner. Voici un lieu où vous voyagez sous adrénaline. Frontières, sans limites. Vous êtes les nouveaux nomades. Et notre monde est votre terrain de jeu.
On vit à un moment particulier de l'histoire des villes, où en effet cette injonction est donnée par l'économie essentiellement aux villes de devenir métropole, et le héros de cette métropole est un cadre ultra connecté, 2.0, hyper mobile. Et le héros de ça est en effet cette espèce de nouveau nomade que le marketing appelle, désigne de cette manière-là, hein. Les publicités des hôtels Accor parlent de ce nouveau nomade hyper connecté, cette classe créative, etc. Donc voilà, injonction est faite aux villes de devenir métropole, injonction est faite aux individus de devenir mobile, on les encense, mais d'un autre côté, pour construire cette infrastructure-là, il faut changer l'économie, générer une mobilité de pauvres, créer de la pauvreté, créer de plus en plus de mobiles qui vont s'exclure au fur et à mesure pour créer cette fiction infrastructurelle et maintenir le héros sur son piédestal. Et au besoin, dépouiller au sens sacrificiel le gitan et se recouvrir de la dépouille de son cadavre pour faire bon teint. Et aujourd'hui, il y a un phénomène nouveau qui avait été relaté par des magazines féminins, en particulier comme Marie Claire, qui est la gypset. Cette espèce de gens riches, ultra connectés, qui se définissent comme tels et qui portent parfois leurs oripeaux. On voit des dames très chiques, milliardaires, souvent, porter des espèces de jupes fleuries qui seraient, en tout cas, la manière dont elles se représentent, ces esmeraldas auxquelles elles essaient de correspondre. Il y a un avenir, là, en tout cas.
Voyage virtuel de Guy Rottier avec les oiseaux architectes au pied d'un arbre, en Afrique. Bonjour, cher confrère.
Bonjour, Rottier.
J'aimerais bien savoir comment vous concevez vos nids et comment vous vous organisez.
Nous vivons en groupe et par couple. Nous choisissons un arbre qui va être notre immeuble et nous suspendons aux branches nos nids en forme de boule. Elles sont cousues main, si l'on peut s'exprimer ainsi, avec des fibres végétales que l'on trouve au sol et aux alentours. C'est pour cela que l'on nous appelle les tisserands, ou oiseaux architectes.
Mais pourquoi l'entrée de chaque nid se trouve-t-elle au bas de la boule et non sur le côté ? Est-ce pour se protéger de la pluie ?
Non, pas du tout. C'est à cause des serpents arboricoles qui veulent piller nos demeures et dévorer nos œufs et nos petits. Avec l'entrée en bas, ils ont beaucoup plus de difficultés pour pénétrer dans nos nids.
On voit que l'arbre est rempli de nids. Avez-vous des règles de proximité ?
Nous ne pratiquons pas le système métrique, mais nous connaissons le code civil de Napoléon. Donc si deux nids sont à moins de 50 cm l'un de l'autre, le dernier arrivé se fait rappeler à l'ordre et son nid est détruit par son voisin le plus proche. Respectez-vous la tradition des matériaux comme chez nous ? Nous ne sommes pas fous. Nous employons tout ce que nous trouvons, par exemple, des fils de nylon, des ficelles de toutes les couleurs, des bouts de tissu, des lacets de souliers. Tout ce que nous pouvons tisser. Par rapport au passé, c'est un changement énorme, fondamental par rapport à nos ancêtres. Avez-vous une commission d'esthétique ? Vous voulez rire ? Sachez que ce sont les techniques qui sont à la base de l'architecture. Si demain on trouve des boules en plexiglas avec un petit crochet pour les suspendre, pensez-vous vraiment que nous serons assez imbéciles pour les interdire dans le but de conserver nos vieilles habitudes ? Et qui sait, un jour, nous aurons peut-être une ampoule électrique et une télévision à l'intérieur, avec des reportages sur vos habitations à la mode ? Et les couleurs de vos façades ? On s'en fout totalement ! Oui, c'est vrai que chez nous, à force de vouloir copier le passé, arrêter le temps et fabriquer des lois, nous sommes en train de transformer nos agglomérations en musées pour jeunes vieux.
Peut-être que l'architecte peut être une sorte de personnage qui traverse le territoire et les villes et qui arrive à rendre compte justement de réalités un peu oblitérées autour de ces espaces. Un des rôles majeurs de l'architecte, c'est une capacité de remettre en récit des réalités complexes de la ville et du territoire de manière générale. Un peu comme le personnage David Vincent de la série Les Envahisseurs, hein, qui est un des seuls héros télévisuels architectes de son état et qui va traverser les États-Unis par la crise sans jamais rien construire, mais d'un seul coup révéler une sorte d'envers de la ville et essayer de le porter à la connaissance de tous.
Architecture et mobilité. Avec Véronique Villemain, Arnaud Lemarchand, Christophe Hubert, Stany Cambotte, Florent et Étienne, Marie-Christine et Jean-Charles, et Sandrine. Texte lu par Olivier Augron. Prise de son, Étienne Leroy, Georges Thau, Jacques Hubert. Mixage, Delphine Baudet. Attaché d'émission, Christine Bernard et Alison Sinard. Coordination, Irène Omelianenko. Un documentaire de Marc-Antoine Granier et Julie Béressy pour Sur les Docs.
Oh, mystic palm, mon gementero. A few escape your magic arrow.